C'est bien Pièces Détachées, nous sommes bien le 2 décembre 2024 et aujourd'hui nous allons recevoir en interview sur la pièce Marius de Joël Pommerat, la comédienne Élise Douillère dans le rôle de Fanny et le comédien Redouane Ragel dans le rôle de Piquoiseau, qui se joue du 29 novembre au 8 décembre à la MC 93 dans le cadre du Festival d'automne. Nous vous parlerons ensuite en chronique d'Inconditionnel, un texte de Kate Tempest, traduction et mise en scène de Dorothée Mouniazena au Bouffe du Nord. Nous vous parlerons aussi de 448 Psychoses de Florencio, de Sarah Ken, mais mis en scène par Florencio, et des Forces Vives d'Animal Architect qui se jouait à l'Odéon. Oui, Camilla.
Merci beaucoup d'être là avec nous, Élise et Redouane, pour parler de Marius.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc, moi, avec Guigui, on a vu Marius samedi pour la première à la MC 93. Donc, Marius, c'est une réécriture de la pièce des Marcel Pagnol, Marius, qui fait partie de la trilogie marseillaise. Et c'est une réécriture donc, de Joël Pommerat à partir de cette pièce. Elle a été élaborée dans le cadre d'un atelier théâtre de la Maison Centrale d'Arles, à la base. Et donc, pour parler un petit peu de l'histoire, est-ce que tu veux me parler, Guigui, ou je me parle ?
Oh ben non, je peux en parler.
Vas-y, vas-y.
Donc, bon, alors, Marius, hein, on connaît, donc, Marius...
Fils de César.
Il est fils de César, il est bloqué dans sa boulangerie, et puis, dans son bar, et puis il n'a qu'une envie, en fait, c'est de se barrer, il a envie de vivre tout ça, mais en même temps, il est quand même très amoureux de Fanny. Hein. Et donc, il ne sait pas vraiment. Mais donc, il y a Piquoiseau, hein, qu'on a parmi nous aujourd'hui, on a Fanny également, qui vient tout le temps un peu le titiller pour lui dire, tu viens, on part en bateau, et puis on va vivre une vie d'homme, et puis voilà, d'aventurier et tout ça, et tu vas pouvoir rêver tout ça. Donc, il est tiraillé entre sa vie de famille, sa vie de peut-être d'éventuel boulanger, bon, ça, j'ai pas l'impression que ça le tiraille des masses, mais et puis également son grand amour, Fanny. Donc voilà, donc on est, bon, tout d'abord, on est quand même ravis de vous accueillir. J'ai pas entendu parce que bon, il y avait des petits.
Oui.
Merci
d'être venu déjà en force. Ça, c'est quand même très très cool.
Merci de nous accueillir.
Et donc, moi, je voudrais savoir. Donc, on a dit que cette pièce, elle est fruit d'un atelier. Elle est née à partir d'un atelier à la maison d'arrêt des Arles. Est-ce que vous pourriez me dire, donc, avec Joël Pommerat, Caroline Guéla Nguyen. J'ai sûrement écorché son nom, je pense.
C'est ça, Nguyen.
Ouais. Très bien. Et Guillaume Lambert. Est-ce que vous pourriez me dire comment avez-vous intégré ces projets ? Si je ne me trompe pas, Élise, vous étiez là du début et Redouane, vous êtes arrivée cette année.
C'est ça.
Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre rencontre avec ces projets, s'il vous plaît ?
Moi, en fait, Joël m'a appelée parce qu'il cherchait une Fanny. Et donc, je suis allée le rejoindre au moment où vraiment on était à l'endroit vraiment de la recherche, même textuelle, quoi, de comment on allait raconter cette histoire aujourd'hui avec nos mots, quelles problématiques aussi on soulevait avec cette pièce-là, Marius, parce que tu racontais un peu... tout à l'heure, tu disais, peut-être que la boulangerie, il s'en fout un peu, mais il y a aussi ce que ça raconte de nos relations aux autres, de nos relations à la famille, à qui on est, comment on a été construit et comment on se détache de ces constructions qui nous ont peut-être collé à la peau sans qu'on le veuille aussi. Donc en fait, moi je suis arrivée vraiment au début de la recherche, comme on fait sur n'importe quel projet avec Joël. On arrive sur un plateau de théâtre et il nous propose des impros, quoi, des improvisations sur une thématique. Et à partir de là, on construit, quoi. Et Joël ensuite écrit avec nous, quoi.
Et donc, vous êtes arrivé avant les choix entre les textes de Shakespeare et Marius ?
Non, moi, je suis arrivée vraiment au moment où ils avaient déjà lu des choses à la centrale et il y avait déjà un choix de fait sur Marius, quoi. Donc ça, c'était en 2016, je crois, début 2016 ou mi-2016, je ne sais plus trop. Et on s'est lancé sur Marius, comme ça, sur un an de travail, de recherche, à raison, je crois, de 10 jours par mois. Je crois qu'on allait à la centrale, au tout début, on y allait vraiment pas mal de temps. Et puis, au fur et à mesure, le texte est né, et puis on a construit cette pièce, quoi, voilà.
Ça veut dire quoi, le texte est né ? C'est, parce que c'est vraiment très différent de celui de Pagnol.
Oui, bah, disons que, en tout cas, en fait, Joël, il travaille vraiment avec ses acteurs, quoi. Donc, il écrit pour nous, avec notre façon de parler. Là, en l'occurrence, c'était assez intéressant parce que on retrouvait donc l'accent marseillais qu'on a, l'accent historique de Pagnol, quoi. Et en même temps, il y avait aussi des façons de parler un peu différentes. Donc, il a écrit vraiment avec nos êtres. Et il a fait exactement la même chose avec Redouane d'ailleurs après. Enfin voilà.
Redouane, vous êtes arrivé pour cette dernière récréation de Marius.
Oui, en fait, ma rencontre avec Joël Pomera et la compagnie est venue il y a trois ans. Moi, j'ai rencontré le théâtre comme d'autres personnes dans la pièce en détention. Grâce à des cours, des ateliers qui étaient menés par Olivier Pie. Et donc j'ai joué deux fois dans le Huyn d'Avignon sur des créations avec Olivier. Puis à ma sortie de prison, il m'a reproposé de jouer au Festival d'Avignon, donc sur une autre pièce. Et donc c'est à la suite de cela que j'ai rencontré Joël. Voilà, ça a été vraiment une superbe rencontre et on a enchaîné donc sur une création Amour 2. C'est là où j'ai rencontré Élise, Roxane Isnard aussi qui travaillait en détention avec Élise lors de ses ateliers. Roxane Isnard, une très grande actrice, et Jean Rumi avec Marie Piémontaise. Donc on a tourné Amour 2, donc on la tourne depuis 2 ans et ouais. On sera au rond-point en février encore pour celle-ci. Et donc voilà, dans la continuité, Joël m'a proposé d'intégrer cette aventure avec Marius et forcément c'était avec grand plaisir.
Alors peut-être avec un petit avantage sur l'accent, non, quand même, par rapport à Élise.
Un petit avantage, mais en réalité, le rôle de Picoiseau, on ne sait pas, c'est quelqu'un, on ne sait pas d'où il vient, quoi. C'est pas,
oui,
c'est
il est très, très mystérieux.
Ouais, il est très mystérieux.
Ouais, avec son...
Et vos personnages, donc, interagissent pas beaucoup dans la pièce, mais un petit peu, ils ne s'aiment pas beaucoup.
Non. Ils ne s'aiment pas beaucoup, non, dans la pièce.
Non. Et quelle relation avez-vous imaginé, donc, entre Fanny et Picoiseau, au-delà de dialogue écrit, ce qu'on entend?
En fait, Picoiseau, c'est le démon de Fanny, quoi. C'est celle qui vient briser un peu ses rêves, quoi. Ses rêves d'amour, ses rêves de construction de vie, ses rêves de, voilà, de vie, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a un petit, je sais pas comment, enfin, il y a une animosité, quoi. On a pensé à ça, quoi.
C'est une sorte de personnage faustien, Picoiseau, un messager noir, et donc, c'est la tentation. La tentation, et puis ils viennent détruire toutes les perspectives d'avenir entre Marius et Fanny. Mais au final, voilà, il lui vend du rêve, de l'évasion, et voilà, plutôt que de rester dans ce chemin qui lui était prédestiné, cette boulangerie miteuse, et puis ce mariage peut-être forcé, presque, hein, ça pourrait être un mariage forcé, puisqu'ils se connaissent depuis tout petit avec... Donc, d'où peut-être aussi on peut parler de l'émancipation de la femme. Enfin, y a énormément de thèmes qui sont abordés dans cette pièce.
Oui, après, c'est vrai que ce qui est intéressant avec le personnage de Picoiseau aussi, c'est que voilà, on pourrait le réduire à une sorte de petit démon comme ça qui vient déranger tout le monde. Et en même temps, il pose des vraies questions. C'est quoi ton rêve ? C'est quoi ton rêve de vie ? Est-ce que vraiment c'est de rester ici, de rester dans ce cadre-là ? Donc il pose vraiment des questions sur ce qu'on aurait, nous, profondément envie de devenir, quoi. Donc c'est aussi un personnage qui est très important dans cette pièce parce qu'il vient, interroger l'essentiel de nos êtres. Et là, en l'occurrence, ça passe par Marius, mais enfin voilà.
Mais en même temps, Picoiseau propose une forme d'évasion, donc le voyage, donc à Marius, c'est partir, d'abandonner sa boulangerie. Après que Fanny et Marius se sont déclarés leur amour. Donc, c'est une autre forme d'évasion. Mmh. Et donc, les deux, ils rivalisent. Et finalement, vous arrivez... Marius, au début, ne voudrait presque plus partir après la déclaration d'amour. Donc, on voit qu'il y a ces deux formes d'évasion qui sont en train de lutter.
Ben oui, absolument, oui. De lutter. Oui.
Oui.
Mais alors, en même temps, quand on parle d'évasion en prison, comment ça, enfin, c'est marrant. Hein,
Ben, disons que c'est pas quelque chose qu'on a évoqué en détention, évidemment. Et puis, le sujet n'est pas là, je crois. En fait, c'est plus la question de la liberté et de la liberté d'exister avec nos besoins essentiels. Là, en l'occurrence, Marius, dans la version de Joël, c'est vrai que il le dit dans la pièce, j'étouffe ici, j'ai une boule dans le ventre et je n'arrive pas à exister dans ce cadre-là. Et du coup, c'est ça qui, moi, je trouve est intéressant de parler de ça aujourd'hui. C'est aussi, est-ce qu'on continue à exister avec nos bouleversements intérieurs, avec nos, voilà, est-ce qu'on ne peut pas se libérer nous intérieurement plutôt que de rentrer tout le temps dans les cadres et voir comment on avance, quoi, comment on reste en mouvement, même dans l'esprit. Le symbole de partir en bateau, c'est aussi de rester en mouvement sur un monde en mouvement, quoi, aussi. Voilà. Enfin...
Oui, et donc moi je voudrais savoir, effectivement, Marius décide de rester jusqu'à maintenant, mais pourquoi, à votre avis, il décide de rester? Parce qu'effectivement, il y a l'amour des Fanny, mais on dirait qu'il se sent plutôt. C'est vraiment le rapport avec le père qui est très important, parce qu'il ne veut pas le laisser. Avec Fanny, effectivement, ça ne fonctionne pas vraiment. Mais on dirait qu'il y a vraiment ces rapports à la famille, cet essor d'énormes amours pour ses pères qu'il a fait grandir tout petit, mais qu'au même temps, à l'intérieur, comme fils, il étouffe, il n'y arrive plus, il voudrait partir, il a besoin de partir. Et jusqu'à quand il reste là, il va rester un sort des grands enfants, un grand bébé. Qui reste là, derrière, qui doit suivre les ordres de son père. Donc, effectivement, pourquoi, à votre avis, Marius reste?
Bah, je pense qu'en tout cas, dans la vie, on essaie toujours d'être avec les gens qu'on aime. Je pense que Marius aime profondément son père, aime profondément Fanny, et qu'il essaye, on essaye toujours de construire quelque chose, finalement, parce que... c'est ce qui nous est demandé aussi. Enfin, quand on est enfant, par exemple, on nous dit, voilà, tu vas grandir comme ça. Donc, on a envie de rentrer dans la norme. Et donc, c'est ce qu'il essaie de faire, je pense, Marius, dans ce texte. Et que finalement, il y a le désir, quoi. Le désir d'ailleurs, le désir de découvrir d'autres choses que ce qu'il connaît aussi. Il faut aussi s'imaginer que c'est quelqu'un qui est resté dans cet espace-là toute sa vie et qu'il a envie de voir autre chose. Et que, voilà, c'est voilà.
Désolée, je l'ai compris.
C'est une histoire étrange, peut-être même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Donc tu cours toute la semaine. Tu vois même plus les étoiles dans le ciel. Je t'ai vu toutes ces nuits devant ton iPod cassé. Écrire des lignes sur des bouts de papier. C'était pas ouf, mais au moins t'essayais, réessayais. Pendant que les autres faisaient que bégayer. Et t'as traîné des failles juste pour voir ce que ça fait d'être éclaté sous Jack. En avoir rien à foutre, t'as fait tes connaissances. Et t'as ouvert ton cœur comme si c'était un stadium de foot. Tu croyais que c'était tes potes et qu'ils seraient à vie. Que vos destins resteraient liés. Quoi qu'il arrive, tu t'es trompé. Mais je peux pas t'en vouloir, non. Parce que celui qui a jamais essayé sera jamais éveillé. Le bonheur faut le payer pour un euro, mais avec des larmes. C'est une histoire étrange. Peut-être même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Donc tu cours toute la semaine. Tu vois même plus les étoiles dans le ciel.
que l'eau a coulé sous les ponts et t'arrives te regarder dans le miroir et te sourire. Tous tes vieux chagrins sont loin derrière toi, avec le temps ça devient de jolis souvenirs. Je te dis pas qu'il faut voir la fille t'as tout en rose, mais bon au moins faut pas vouloir la rendre grise. Oui je sais t'as toujours pas ta lampe, mais t'as des rêves qui elle ne demande qu'à vivre. Et t'es dur avec toi, ça j'espère que tu le resteras jusqu'à la fin de l'histoire, hein. Parce que c'est ta façon de faire et que c'est la meilleure au monde. Juste parce que c'est la tienne. Mike, t'as tout dans ta tête, leur dis même pas pardon. T'es fait tout en or brut, si tu gagnes c'est normal. Si tu perds y'a R, y'aura remontada. Tu vas faire des projets, y'en a certains qui vont être sans, y'en a d'autres qui vont couler comme un navire dans l'océan. Mais c'est rien, parce que tu sais que t'es plus le même, que t'as tracé comme un chemin dans une contrée que tout le monde croyait infranchissable. C'est une histoire étrange, peut-être même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Si t'arrêtes de courir, juste une minute, tu verras ta propre étoile dans le ciel.
Et nous revoilà sur Radio Campus Paris. Vous êtes bien dans Pièces Détachées. Et Redouane, qu'est-ce donc que nous venons d'écouter ?
Laylo, une histoire.
Super. Et donc, c'était Redouane que vous venez d'entendre, qui joue dans Marius de Joël Pomera. Il est ici avec Élise Douillère. Et donc, ça se joue à la MC 93 jusqu'au 8 décembre dans le cadre du Festival d'automne. Je vous donne la parole, Camilla Guigui.
Alors, donc on va reprendre, si on parle de Marius, hein, c'est ça ?
C'est bien fait. Ça, ouais.
Bon, voilà, donc c'est bon. Alors bon, Redouane, moi je me demandais, en tant qu'ex-détenu, tout ça, le théâtre, ça a fait quoi pour vous ? Ça a évidemment fait, comment ça s'agence, enfin je sais pas.
C'était à la base un grand moment d'évasion, quoi, lors de ces ateliers en détention. En détention, vous contrôlez, vous maîtrisez, vous intériorisez énormément. Et puis, le théâtre permet déjà de s'évader à travers le récit de textes où, quand j'ai joué des tragédies, je me retrouvais en Grèce.
Vous aviez déjà pratiqué avant ou c'était l'occasion
Non, j'avais pas pratiqué. J'avais pas pratiqué, mais c'est vrai que j'étais plutôt féru de français. Et puis, étant né à Avignon, forcément, voilà, je connaissais un petit peu le théâtre. Mais non, c'était vraiment une bouffée d'oxygène à chaque atelier, parce que voilà, c'était l'occasion de s'exprimer, de parler fort ou moins fort, et puis de s'évader en partant en voyage de soi-même.
Ouais.
Et Redouane Rajal, je veux que vous parliez de la scène comme d'une forme de justice restaurative. Est-ce que pour vous nous expliquer un peu plus et nous dire quelle continuité existe pour vous entre théâtre et justice?
Alors déjà, la justice restaurative, qu'est-ce que c'est? Ce sont des rencontres entre victimes et auteurs. Et d'accord. J'ai fait partie des premiers modules de justice restaurative, bien avant que Jeannery fasse ce film. Je verrai toujours au visage. Donc j'ai fait partie des premiers modules, et donc ça a été vraiment une révélation pour moi. Et en plus de ça, lorsque je faisais ces modules, on était en pleine répétition de Macbeth pour le Festival d'Avignon, et quelques semaines après les rencontres avec les victimes, j'étais sur scène avec des spectateurs en face de moi, et donc j'ai tout de suite fait un lien entre ce que j'avais fait lors de ces rencontres et ce que j'avais vécu avec des victimes, ces échanges et cette rencontre avec les spectateurs. Et donc, en cela, je trouvais que c'était une forme aussi de prolongement de la justice restaurative, et c'était une chance, en tout cas, qui nous était donnée de pouvoir échanger et communier tous ensemble.
Et pour vous, Élise, c'était quoi ? C'était comment pour vous faire ces ateliers, des théâtres en prison ? Parce que moi, j'ai un rêve depuis des années, Je rêve de rentrer en prison et d'assister à des ateliers de théâtre après avoir vu le film des frères Taviani sur Jules César. Et donc, pour vous, c'était comment? Est-ce que c'était la première fois que vous êtes rentrée dans une prison pour faire du théâtre? Cette fois, avec Pomera?
Non, j'étais déjà rentrée en détention avant, plus jeune, mais longtemps avant. Après, moi, disons que pour moi, la question de la détention ne se posait pas. En fait, dans le sens où je suis allée rencontrer des gens avec qui j'allais travailler et raconter une histoire. Donc effectivement, il y a un lieu, il y a un espace, l'espace de la détention, c'est forcément, il est forcément là, on ne peut pas le mettre de côté. Mais je crois que, et c'est tout le travail de Joël aussi, sur ces projets-là, c'est que la question de la détention n'a pas lieu, en fait, pour nous. Enfin, on en parle, évidemment, puisque le projet est créé dedans. Mais nous, en fait, on a rencontré surtout des personnes, des identités qui avaient une envie folle de raconter des histoires. Et parfois plus que ce qu'on peut trouver en dehors, en fait. Et c'était, pour nous, je crois, un moyen aussi de donner une chance à tout le monde de rêver et d'avoir une place dans une société. Et justement, de sortir du cadre de la détention, des murs de la détention, et de se dire en fait, tiens, mais nous sommes juste là, nous, êtres humains, à raconter des histoires, quoi. Et du coup, moi, ça m'a pas... Enfin, voilà, j'ai pas vécu quelque chose de particulier en détention. J'ai travaillé, j'ai appris à être comédienne aussi, en même temps que les autres, quoi.
Mais ouais. Vous étiez quand même de formation comédienne.
Alors moi, j'ai pas fait de formation. Enfin, j'ai pas fait d'école. J'ai joué beaucoup avant, mais j'ai pas fait d'école de théâtre. Et ça a été un peu. Moi, j'ai vraiment. Pour moi, ça a été aussi une école, quoi. J'ai appris en même temps que tous les copains de Marius, quoi. Voilà. Et du coup.
Ce que j'allais dire, j'étais incapable de dire qui était. Professionnel ou pas, mais bon, après, j'imagine à partir du moment où vous êtes professionnel, donc vous le devenez quand vous êtes payé, quoi.
C'est ça, en fait, c'est donc, ce que.
Absolument, quoi.
Vous êtes tous professionnels, là, sur ça.
Voilà, il n'y a pas de. En fait, nous, il n'y a pas de. En soi, il n'y a pas d'anciens détenus, de professionnels. Ouais. On a tous. Et encore une fois, on a tous travaillé en tant que comédien avec une exigence de travail comme on peut retrouver sur n'importe quel projet à l'extérieur. Et une recherche sur soi, sur le travail, sur ce qu'on raconte, sur la langue, sur comment on parle, sur comment on se place, comment on s'adresse les uns aux autres. Donc voilà, pour vous répondre à ça.
Alors, je voulais évoquer aussi, alors c'est Jean Ruimi, c'est ça?
Oui.
Oui, qui a l'air d'être un personnage, parce que partout où on lit des choses sur vous, apparemment c'était une espèce, il a une volonté gigantesque de faire du théâtre, donc il était détenu. Et il portait un projet, donc ça s'appelait Désordre, Désordre d'un futur passé.
Ouais.
Donc des détenus qui construisent une machine à remonter le temps.
Ça.
Enfin, j'ai su que ça. Ouais. Et donc ça a été mis en scène par Joël Pomera.
Oui, Joël et Caroline Nguyen aussi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jean, du coup, a écrit cette pièce en détention.
Donc il joue César, là, avec vous.
Voilà, ouais. Il joue César, c'est le père de Marius, donc. Il avait écrit une pièce et puis à l'époque la détention était en lien avec le théâtre de Cavaillon et donc il y a eu cette rencontre entre Joël et Jean pour monter cette pièce Désordre d'un futur passé qui était en plus assez intéressante parce qu'elle posait aussi voilà la question de forcément l'évasion à travers une machine à remonter le temps.
Ils allaient faire quoi dans le passé?
Ils allaient chercher quoi, ils allaient chercher leur place. Mais moi j'ai pas travaillé sur cette pièce donc je pourrais mal vous en parler mais.
Et elle n'existera jamais, elle ne va jamais sortir.
Je ne sais pas, peut-être que c'est le projet
Joël.
Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que Jean, en tout cas, c'est lui qui a initié à l'intérieur de la centrale le travail de théâtre, quoi. Et puis, vraiment, avec une justesse et une envie très belle de vouloir aussi réfléchir sur le plateau, de vouloir penser à raconter comment on raconte des choses. Enfin voilà, c'était assez beau de voir ça. Enfin moi j'ai rencontré Jean du coup quand je suis arrivée sur Marius, mais c'est comme en dehors quoi, comme un metteur en scène qui a d'un coup une envie de raconter une histoire, de poser une histoire sur le plateau quoi. Voilà.
Et moi je te fais pas confiance, tu sais, ça plaît. Ton sourire sur le tech me paraît suspect. Et je t'ai quitté, mais au fond, je t'avoue que ça me fait mal. Mais je dois partir pour faire ce bif, tu le sais. Je me suis promis de plus jamais t'envoyer de message, mais là je le fais. En vrai, il fallait me donner de la force lorsque j'étais en bas de l'échelle. Tu reviendras des années plus tard en me disant j'ai aucun regret. Mais vu que c'est en même temps que la plupart, ça ne me fera aucun effet. Tu voudrais rentrer dans ma vie? Jamais, non. Je mène mon bateau, je navigue, ma chère. Maintenant je ne vois plus de magie, ça prenant. Surtout que j'ai compris que cette magie s'achète. Et on pourrait vivre d'amour, d'eau fraîche, d'amnésia. J'écoute ton petit cœur, il sonne cassé. Moi je suis foncé, je fais des tours dans le port d'Amsterdam. J'ai trouvé que des vis pour t'emplacer. Et on pourrait vivre d'amour, d'eau fraîche, d'amnésia. J'écoute ton petit cœur, il sonne cassé. Moi je suis foncé, je fais des tours dans le port d'Amsterdam. J'ai trouvé que des vis pour t'emplacer. Dis plus jamais, jamais. Dans ton cœur je me sentais à l'étroit, donc ça me fait pas mal. Savoir qu'on partagera pas ce nuage de marijuana. L'amour c'est surcoté, ta beauté ça est à la. Depuis tu me parais banal. On pourrait vivre d'amour et d'eau fraîche, mais c'est pas notre destinée. Voir ce que j'ai mis dans le couplet, quand je dis que je t'apprécie à moi. Quand c'est l'échappatoire qui m'oppresse, je ne sais plus où m'exiler. Hey, pour me revenir, je dois me sauver. Le bédaille a mis en main. Et on pourrait vivre d'amour, d'eau fraîche, d'amnésia. J'écoute ton petit cœur, il sonne cassé. Moi, je suis foncé, je fais des tours dans le port d'Amsterdam. J'ai trouvé que des vis pour t'emplacer. Et on pourrait vivre d'amour, d'eau fraîche, d'amnésia. J'écoute ton petit cœur, il sonne cassé. Moi je suis foncé, je fais des tours dans le port d'Amsterdam. J'ai trouvé que des vis pour t'emplacer. Et on pourrait vivre d'amour, d'eau fraîche, d'amnésia. J'écoute ton petit cœur.
Et nous revoilà sur Radio Campus dans Pièces Détachées. Redouane, c'était quoi cette fois?
Chief, amnésia.
Ah, terrible. Donc,
toujours une rupture. Parle d'amour. Est-ce que l'amour existe vraiment?
Parce qu'on est dans grande le thème question. De la pièce de Marius, de Joëlle Pomera.
Joëlle, MC93, jusqu'au 8 décembre. Et réjouez à la ferme des Buissons les 18 et les 19 décembre.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est
voilà, c'est complet, mais aussi, vous pouvez essayer de voir. Alors, donc, on continue. Oui, moi, je voulais savoir.
Les attrapes hein, aussi du 12 au 14 décembre. Mais de toute façon, tout est plein.
Oui, c'est vrai. Mais vous pouvez essayer.
Mais au dernier moment, il y a une petite liste d'attente. Il y a des places qui se libèrent.
Oui, 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 c'est vrai. Oui.
Oui, j'ai une petite question. Vous m'entendez?
Oui,
là
vas-y, Julien.
J'ai une petite question.
Normalement, tu
ne
peux pas interagir dès là. Oui, oui, vas-y, on t'écoute.
Oui, bah, je te parle dedans.
Oui.
Alors, dans quel. Redouane filme tout, prend des photos. Sur quelle raison on peut retrouver l'émission en direct, là?
Ah, c'est sur mon Insta, mais c'est un Insta privé, donc. c'est un souvenir perso.
Très bien.
Bon, bah, on retourne à Marius, on revient à Marius. Et donc, vous avez choisi. Avec Pomera, de transposer cette histoire hors de son époque d'origine, l'entre-deux-guerres. Pourquoi?
Pourquoi? Ben parce que, en fait, on raconte cette histoire-là aujourd'hui. Donc forcément, on n'est pas exactement en 2024, mais c'était intéressant aussi de ramener cette histoire-là qui date quand même. Enfin, c'est cette trilogie, elle date un peu, quoi. Enfin,
1931.
Ouais, c'est ça, c'est 31. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui quand on reprend des problématiques comme ça, et cette histoire-là particulièrement, comme je vous disais tout à l'heure, de qu'est-ce qui se joue aujourd'hui quand quelqu'un part, ou quand quelqu'un se libère de son espace de vie, voilà. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a ramené aujourd'hui, quoi.
Il va y avoir la suite.
Mais entre ces deux personnages.
Non, il n'y a pas de suite.
Il n'y aura pas de suite.
Enfin, il y a Fanny, normalement, dans la trilogie. Normalement, dans la trilogie, il y a voilà. Fanny.
C'est ça, en fait, c'est les trois personnages. C'est Marius, Fanny et César dans la version de Pagnol. Mais là, Joël, il était vraiment intéressé par les problématiques qui étaient posées sur cette pièce-là, en particulier sur Marius. Aussi parce que justement à l'époque on travaillait à l'intérieur de la centrale et qu'il y avait cette question aussi de la liberté, de l'abandon aussi peut-être de choses, de la vie. Et en fait, pour l'instant il n'y a pas de suite de prévu, quoi.
Ouais. Ah, de toute façon, Marius, c'est la pièce la plus forte des ouais. trois. Hein. C'est une pièce dénigrée, mais avec une force à la Tchekhov, quoi. C'est sur les trois, voilà, c'est la plus puissante.
Et entre ces deux personnages, donc on a parlé tout à l'heure des Picoiseaux, mais je trouve qu'on n'a pas assez parlé des Fanny. Et pourquoi ? Parce qu'entre Fanny et Marius, Marius veut partir et Fanny veut que Marius reste. Fanny ne veut pas partir, pourquoi ? Mais finalement, Fanny semble aussi être étouffée à l'intérieur des...
C'est vrai qu'elle pourrait partir.
Non, je crois que Fanny, elle... En fait, pourquoi ? Alors voilà, parce qu'il y a la question de la femme qui attend ou qui aime. Mais je crois que...
Pénélope.
Oui, voilà. Mais en fait, moi, ça me fait penser à... Enfin, pardon, du coup, ça me fait penser à Anne Dufour-Montel qui parle de la puissance de la douceur. Et dans cette pièce, en fait, Fanny, elle a cette chose-là de... Voilà, cette simplicité de l'amour, quoi. Et de pas avoir forcément, en fait, besoin de plus que ça. Parce qu'en fait, sa liberté, à elle, elle est là. Et en fait... Moi, ce que ça me raconte aujourd'hui, c'est que cet amour-là, il a pu beaucoup paraître pour quelque chose d'un peu voilà, fragile, la femme fragile et tout ça. Alors qu'en fait, pour moi, il se joue autre chose. Aujourd'hui, particulièrement en ce moment, voir des personnes qui se placent à l'endroit de l'amour... En fait, c'est de plus en plus rare. Enfin, je trouve que cette douceur-là de l'amour et cette force que peut avoir l'amour aujourd'hui... se fait rare, quoi, dans notre société moderne.
Et d'ailleurs, elle l'aide à partir.
Et elle l'aide à partir. Et c'est par amour aussi qu'elle le fait. Et finalement, elle ne perd pas sa liberté pour autant. Parce que Fanny, elle est pas... Elle, forcément, c'est une déchirure pour elle de voir l'homme qu'elle aime partir. Mais je crois pas que ce soit... J'ai l'impression que pour elle, il y a autre chose qui se joue. Je crois que le simple fait d'aimer... profondément, sincèrement quelqu'un, lui permet d'exister. Voilà.
Merci Elise. Guigui, je te laisse. Tu avais une question tout à l'heure, tu me disais.
Oui. Non, je ne me souviens plus, mais non, vas-y.
Non. Tu ne voulais pas terminer avec la dernière question sur l'amour.
La question sur l'amour, non, je ne sais pas. Non, ça me... Non.
Non.
Non, non.
L'amour ne fait pas question.
Bah merci beaucoup.
Je suis un peu pris au dépourvu.
Oui. Non, mais je pensais que tu avais une dernière.
Décor,
ah oui, les décors. J'ai trouvé qu'il...
Bah oui, je croyais.
J'ai trouvé que les décors est assez spécial. Moi, je le trouvais assez spécial parce qu'il y a vraiment cette boulangerie, mais un peu. Cette boulangerie, on n'a pas envie d'y rentrer.
Ah, c'est oui. Une boulangerie.
Ouais, c'est
avec les chaises et tout ça. Ouais.
C'est une boulangerie qui marche pas très bien, quoi.
Ok, mais voilà. Il y avait le même décor à la maison d'art et des Arles, il y avait le même décor
oui.
ou pas ?
Ouais, ouais, c'est un décor qui a été construit pour l'espace de la centrale au moment de la toute première version de la création, où en fait, on avait à l'époque, on travaillait dans un espace à la centrale qui était assez petit, c'était pour un gradin de 80 personnes, je crois, à l'époque. Et il y avait cette question de croire à ce lieu, et de croire à ce lieu un peu décrépit aussi. Qu'est-ce que ça raconte aussi du personnage de Marius d'être là, dans cette boulangerie où il ne se passe pas grand-chose, où il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, à part les habitués. Et voilà, et puis du coup, c'est Eric Soyer qui a construit la scénographie avec des vrais croissants. On a des vrais croissants au plateau, du vrai pain en tout cas.
Ah d'accord, il y a du nouveau pain tous les soirs.
Ouais, à peu près.
Et a quand même à noter que Marius est fan de Pantera, mais c'est complètement hors sujet.
Oui,
il a son t-shirt Pantera.
Il est plutôt métal.
Ouais, il est métal.
Voilà. C'est son petit tambouille intérieur. Voilà, il écoute ça le soir en rentrant.
Merci beaucoup, Redouane, Rachel et Elise Doyer d'être
merci
avec nous ce soir.
Oui, merci beaucoup d'être passé. Hein.
Au grand plaisir. Marius.
Quando hanno aperto la cella, era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte Michè s'è impiccato ad un chiodo perché non poteva restare 20 anni in prigione lontano da te. Io so che Michè ha voluto morire perché ti restasse il ricordo del bene profondo che aveva per te. Seppure Michè non ti ha scritto spiegando perché se n'è andato dal mondo, tu sai che l'ha fatto soltanto per te. 20 anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui si è impiccato la porta gli devono aprir. Nel buio Michè se n'è andato sapendo che a te non poteva mai dire che aveva ammazzato perché amava te. Domani alle 3 nella fossa comune cadrà, senza il prete e la messa, perché di un suicida non hanno pietà. Domani Michè nella terra bagnata sarà, e qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà. E qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà.
Et nous revoilà sur Radio Campus Paris. Vous êtes bien dans l'émission Pièces détachées. Camilla, qu'est-ce que nous avons écouté à l'instant ?
Nous avons écouté Fabrizio De André et cette chanson s'appelle La Ballade del Michè.
Ah, oh, mon Dieu, que c'est beau. Et maintenant, c'est le temps des chroniques. Alors, nous n'avons pas de virgule et donc aucun souci. Et j'enchaîne et je vais vous dire que nous allons aujourd'hui chroniquer 448 Psychoses de Sarah Ken, mis en scène par Florencio. Puis, nous vous parlerons des forces vives. Puis, nous vous parlerons d'inconditionnel. Voilà. Et donc, pour commencer, 448 Psychoses et c'est moi qui m'y colle. Et ensuite, nous aurons un retour d'Hélène. Et cette pièce 448 Psychose de Sarah Ken, elle a quelque chose de venimeux. C'est l'ultime pièce de Sarah Ken, juste avant qu'elle ne se suicide. Et c'est bien la seule fois qu'elle semble, dans toute son œuvre, se frotter à l'autobiographie, puisqu'elle y raconte ses troubles mentaux, ses rapports avec le corps médical. Si bien que cette pièce a quelque chose de testamentaire, elle est presque comme un snuff movie. Ici, il n'y a pas vraiment de fiction, pas vraiment de distance, et il y a comme une indécence à écouter sans rien faire, en prétextant apprécier leur poésie, ces mots qui crient une douleur bien réelle, fatale de surcroît. Où est l'empathie dont nous devrions faire preuve ? C'est sûrement l'écho de cette question qui nous ramène à l'œuvre de la dramaturge qui n'a jamais cessé de s'interroger, ou d'interroger plutôt le théâtre en le confrontant à ses limites, celles que l'on peut montrer, celles de ce que l'on peut dire. Et toujours les mots l'emportent. Là encore, oui, il y a cette poésie. Et la pièce résiste à ce malentendu de ne l'appréhender que sous l'angle du testament, de la dernière lettre d'un suicidé. Il s'agit bien là d'une œuvre dramatique, ambitieuse, exigeante, qui sait nous pousser dans nos retranchements, nous placer à la lisière du supportable. Il s'agit aussi d'une pièce qui fait envie. Elle est un morceau de bravoure pour n'importe quelle actrice, un monologue, un seul en scène, qui ne peut que révéler le talent pour celle qui osera porter ce texte. Il faudra jongler entre l'humour le plus noir, le désespoir le plus profond, l'apathie la plus lénifiante, le trivial le plus attendu. Je pourrais continuer la liste longtemps. C'est la pièce parfaite pour une bande démo. Et tout le monde s'accorde pour dire que dans cette mise en scène de Florencio, Sophie Cadieu s'en sort haut la main du grand art, et son accent québécois ajoute une légère distance pour nous permettre d'aller plus loin dans l'horreur. On se met à rire alors même que ce qui est dit est insoutenable. C'est très maîtrisé, peut-être trop. Où est la déchéance? Où est l'état comateux induit par le cocktail chimique? Ça ne cesse de sautiller, de virevolter d'une émotion à une autre, et la mise en scène est au diapason. À chaque variation, son effet. Ici, une lumière qui change, ici un rideau qui s'ouvre, ici une image habilement projetée, la scène se dévoile, s'ouvre sur les méandres de l'esprit tortueux, et cette maîtrise magistrale pour le coup a quelque chose de froid, quelque chose qui nous empêche de nous effondrer totalement avec Sarah Kane. Comme si le metteur en scène avait bien saisi les dangers de ce texte et qu'il avait préféré s'en tenir éloigné. Au lieu d'éliminer le spectacle est ici convoqué avec tous ses artifices, tous ses oripeaux. Ça fonctionne, les spectateurs s'y retrouvent. Ils ne boudent pas leur plaisir, ils en ont pour leur argent. Une actrice qui use de tous ses charmes, qui démontre tous ses talents, un metteur en scène qui scénographiquement brille par son ingéniosité. Et tout cela résonne en période post-pandémie avec l'expression enfin audible de nos problèmes psy. Un bon spectacle donc. Mais cela ne nous fera pas oublier l'extraordinaire version de Claude Régis, un travail fin sur la langue de la plus grande autrice britannique. Hélène, nous étions ensemble ce soir-là au
Alors,
théâtre.
Alors, effectivement, nous étions ensemble pour très peu de temps. Donc, je vais passer la parole à Henri Michaud. Qu'est-ce que je fais ? J'appelle. 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 Je ne sais qui j'appelle. Qui j'appelle ne sait pas. J'appelle quelqu'un de faible, quelqu'un de brisé. Quelqu'un de fier que rien n'a pu briser. J'appelle. J'appelle quelqu'un de là-bas, quelqu'un au loin, perdu, quelqu'un d'un autre monde. C'était donc tout mensonge, ma solidité. J'appelle. Devant cet instrument si clair, ce n'est pas comme ce serait avec ma voix sourde, devant cet instrument chantant qui ne me juge pas, qui ne m'observe pas, pendant toute honte, j'appelle. J'appelle. J'appelle du fond de la tombe de mon enfance qui boude et se contracte encore. Du fond de mon désert présent, j'appelle, j'appelle. L'appel m'étonne moi-même. Quoique ce soit tard, j'appelle pour crever mon plafond, sans doute. Surtout, j'appelle.
Merci Hélène pour ce moment de poésie. Voilà, donc c'était 448 Psychoses de Florian Sio, de Sarah Kane, au Théâtre Paris-Villette, que nous avons donc vu au Théâtre Paris-Villette, du 27 novembre au 7 décembre. Voilà. Et maintenant, nous passons aux forces vives d'Animal Architecte que Alice et Julien ont vu au théâtre de l'Odéon. Lequel d'entre vous commence ?
Je me lance ?
Lance-toi.
Lance-toi. Boum ! Bon. Ah, elle est tombée.
Alors, la première partie de la pièce de théâtre, alors c'est une pièce de théâtre, comment on pourrait... C'est d'après les mémoires d'une jeune fille rangée, La force de l'âge et la force des choses de Simone de Beauvoir. Et c'est donc une création d'une compagnie qui s'appelle la création d'Animal Architecte. Alors, La première partie de la pièce de théâtre évoque l'enfance et l'adolescence de Simone de Beauvoir. Moi, j'étais très curieuse d'en savoir plus sur cette philosophe, autrice, grande figure du féminisme en France. Dans cette première partie de ses mémoires, on pressent l'ennui et la misère affective dans laquelle était plongée cette femme au cours de ses premières années. L'ennui, l'incompréhension de ses proches l'entraîne à être ce qu'elle est, une femme qui lit, étudie, se définit et s'invente par les forces vives de la pensée. La volonté d'échapper aux assignations sociales et religieuses conformistes de son époque. C'est cela même qui est admirable, la volonté d'exister pour ce que l'on est, ne pas se laisser enfermer par des étiquettes. Alors comment trouver sa place en tant que femme dans cette société où le masculin l'emporte, y compris dans l'écriture ? Elle écrit « Je sombrais dans la nuit de l'impuissance, plus rien ne demeurait que ma présence nue et elle explosait en de longs hurlements. » Dans ses mémoires d'une jeune fille rangée aux éditions Gallimard en 1958. Ces mémoires font écho aux souvenirs de peut-être que l'on a dans nos propres souvenirs de notre famille. Cette forme théâtrale confronte ce qui met à l'œuvre pour échapper à ce qui est prévu par l'institution politique, le rapport à l'histoire, les idéologies, les conventions sociales. Après l'entracte, parce que la pièce, faut dire, dure quand même 3h30, on retrouve dans la deuxième partie de la pièce sa vie de femme engagée aux côtés de son compagnon intellectuel Jean-Paul Sartre. Et oui, encore et toujours le mari surpuissant. On y évoque aussi son insurrection aux côtés de Gisèle Halimi, son combat pour la cause des femmes dans l'affaire Bouchapa. Figure féministe, Simone de Beauvoir est décriée par la presse à la sortie de son livre « Le deuxième sexe » en 1949. Au cours de la guerre d'Algérie, le journal du Monde lui demande de remplacer dans son article le mot « vagin » par celui de « ventre » lorsqu'elle dénonce les tortures subies par Djamila Bouchapa.
On peut même parler de viol,
Cacher ce sexe que je ne saurais voir en trou de mémoire. On apprend aussi que certaines archives demeurent inaccessibles, classées secret défense. Je ne pense pas que le théâtre puisse contribuer à changer la vie. C'est un miroir. Reste à passer de l'autre côté. Ces relents d'une histoire politique cachée laissent peu d'espoir en l'humanité. De gros sanglots monotones me coulent et sans la poésie comme acte de résistance, je ne survivrai pas à l'injustice. J'appelle. J'aime bien ton poème. Le dispositif scénique sombre fait écho aux angoisses et à la mort de l'autrice. Le décor est évidé, les murs sur roulettes se composent selon les espaces, les vitres des fenêtres absentes donnent l'impression que tout peut être entendu sans avoir à écouter aux portes. Les acteurs changent de rôle sans artifice et montrent le processus de l'œuvre. L'autrice est témoin de l'histoire par ses mémoires et nous rend par la même occasion complices en invoquant les souvenirs universels qu'on peut tous ressentir, grandir, vieillir, devenir et crever comme une vieille merde. Pièce à voir et surtout pour ce regard solide.
Tu rigoles quand tu dis cette phrase-là. Bravo Alice.
Écrevez. Aymeric Lombray, oui.
Pièce donc à voir surtout pour ce regard sur l'histoire, un regard que l'on souhaiterait encore davantage mêler de points de vue antagonistes, d'histoire plurielle, sociale, au scalpel du réel. Et toi Julien ?
Alors moi je dois dire déjà que aller voir un spectacle sur Simone de Beauvoir à l'Odéon, je m'attendais déjà à un spectacle stérile et pop, ce que l'Odéon fait parfois, surtout quand il s'agit d'anesthésier toute contestation pour un public de bourgeois bien habillé.
C'est pas mal, stérile et pop.
Mais c'était tout le contraire. C'était vraiment tout le contraire.
C'était fort.
Il y avait vraiment de l'engagement. On n'avait pas une espèce d'icône rabougrie et prête à digérer. D'ailleurs, c'est très intelligent la façon dont, à la reprise, après l'entracte, il y a toute une analyse, enfin plutôt une description de tout ce qu'on peut trouver en termes de contestataires, toujours chez Simone de Beauvoir, et en même temps de digérer par le système médiatique de masse. Bon alors on a eu un petit plaisir quand même, qui n'arrive pas tous les jours, c'est qu'on avait une imitation de Laure Adler en présence dans le public de Laure Adler. Et là, on avait surtout quelque chose qui était écrit avec les tripes. Il y avait vraiment cette force, et notamment quand cette scène qui a pour moi été la plus forte, celle où on a De Beauvoir et Sartre qui sont dans leur bande de militants confrontés à cette situation horrible de la mise en place sous forme de coup d'État d'une nouvelle République, la Ve République, et la façon dont ils se sentent délaissés, abandonnés, non seulement par une partie de la gauche, mais par la population, bah, puisque c'est quelque chose qui apparaît dans le spectacle. On a ce référendum où 80% des gens acceptent, 80% des citoyens et des citoyennes acceptent que De Gaulle prenne le pouvoir. Et on sent toute tout ce sentiment d'une perte totale de l'idée de s'être battu pour rien. Et vraiment, je trouve que ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour cette scène, il faudrait y aller. Mais c'est évidemment l'une des très nombreuses scènes extrêmement fortes de ce spectacle. Vraiment, un grand, grand merci à la troupe. Ce qu'ils ont fait est formidable. C'est vraiment un grand moment. Allez-y.
C'est vrai que le fait que ce soit des mémoires, ça fait écho à des souvenirs et à des archives aussi. Mmh. Enfin, c'est à la fois du documentaire. Enfin, ils utilisent des matériaux qui font que ça nous plonge dans le réel et en même temps dans le passé.
Et puis, de Beauvoir dit bien la honte qu'elle a de la guerre d'Algérie, la honte qu'on devrait avoir nous aujourd'hui quand on pisse sur les tentes ou qu'on laisse mourir des sans-papiers dans la Méditerranée.
C'est pas bien. Et donc c'était les forces vives d'Animal Architecte à l'Odéon dans le cadre du Festival d'automne, encore une fois, du 27 novembre au 20 décembre. Et
on continue avec le Festival d'automne, toujours.
Oui, toujours. Et nous sommes allés voir Inconditionnel, un texte de Kate Tempest, traduction et mise en scène de Dorothée Mugnaneza, au Bouffe du Nord. Et Hélène, qu'est-ce que tu en as pensé?
Donc, Inconditionnel, effectivement. Bah, voilà. Donc, c'est d'abord... Oui, pardon, je fais toujours mes vocalises avant une chronique, c'est très important. C'est donc d'abord la pièce de Kate Tempest, Hopelessly Devoted, qu'elle a donc écrite en 2015. Et donc, Kate Tempest, qu'on connaît surtout comme figure internationale de la poésie, de la musique et du rap. Et en fait, cette pièce, bah, c'est aussi la première traduction hors de ses propres textes de Dorothée Mugnaneza, que l'on connaît surtout comme chorégraphe, musicienne et auteur, et qui fait donc de ce texte britannique son premier ouvrage en qualité de metteur en scène. Donc toutes ces premières fois se retrouvent dans joyeusement au Théâtre des Bouffes du Nord, dans le cadre donc du Festival d'automne. Inconditionnel pourrait se résumer très simplement, très synthétique, en histoire d'amour. Une histoire d'amour de femme entre codétenues dans l'univers carcéral, d'amour filial entre la protagoniste Chess et sa fille de 13 ans, également de réconciliation avec les fantômes d'un passé qui serait pour moi moteur d'une résilience poétique. Parce que Chess, notre personnage principal amoureuse et maman, c'est aussi une formidable chanteuse et songwriter. D'ailleurs, astuce remarquée de mise en scène, ses écrits, hein, les paroles d'une chanson pour sa fille, tapissent le sol de la cellule qui se découvre petit à petit à mesure que la pudeur et que le temps passent. Et donc c'est lors d'ateliers avec une prof de musique qui est autorisée à franchir les portes pénitentiaires que nous suivons Chess, qui va vivre tous ses états d'âme de cœur emprisonné et contraint. En guise d'acmé et d'exutoire, à la fin, la performance finale qui sort la pièce jusque-là bien lisse de ses gonds, hein, qui sort un peu la pièce d'une espèce d'académisme, donc sous la forme d'un concert live avec moult adresses publiques à la clé, quatrième mur piétiné et sous la harangue de la gardienne métamorphosée en agent et qui termine de nous faire oublier que nous sommes encore un peu au théâtre. Bref. Des essais généreux, des désirs louables de faire théâtre, puis de s'affranchir des codes du jeu traditionnel par des inclusions de moments chantés et dansés. Mais tout cela reste bien timide et nous laisse au seuil d'une création qui aurait pu être véritablement, croire en ses potentiels subversifs. On sait que Mugnaneza est chorégraphe, alors quid d'une vraie envolée chorégraphique ? Également, la metteur en scène a collaboré étroitement avec un compositeur multi-instrumentiste, Ben Lamarguet, pour architecturer la pièce sonorement. Mais il nous a manqué une vraie imprégnation sensorielle. D'ailleurs, on sent que la comédienne, Grace Seri, est un peu en retenue expressive, alors que les acmés émotionnels qu'elle traverse demandent franchement une sortie de route poétique, dansée et musicale. Donc je terminerai pour dire qu'on sent une volonté de revenir au texte et de faire théâtre qui... Et un peu, malheureusement, je trouve, moi, de manière un peu scolaire, un peu timorée, Alors qu'en puissance, la metteur en scène, tout comme les comédiennes, avait beaucoup de potentiel pour donner une dimension aux libertés multiples. Dommage de rester en lisière des possibles quand on sait toute la force contenue dans la langue de Tempest et ses capacités réellement émancipatrices. Un ouvrage gentil mais qui ne se déploie pas. Cela dit, restons à l'écoute du travail théâtral de Mounia Neza parce que moi j'y ai décelé une rare générosité. Et toi Thomas, qu'en as-tu pensé ?
Bah, c'était ma semaine anglaise, après Sarah Kane, bah, qui est Tempest. Bon, je vais vous avouer que je comprends pas vraiment l'intérêt qu'on lui porte à Kate Tempest. J'apprécie, hein, mais sans plus, on est loin du pinacle auquel Yale est voué. Loin de cette mode pour son œuvre en ce moment. Ça n'a rien de novateur pour moi. La langue n'est pas aussi travaillée que chez Sarah Kane. Il n'y a rien qui relève du coup de poing. Et c'est finalement très anglais, du Pinter, du Ken Loach. C'est essentiel, hein, cette représentation du prolétarien sur nos scènes. Je dis pas le contraire, mais c'est pas nouveau. Et de là à en faire tout un foin, bah, pff, bof. Cependant, cette parole-là reste encore assez peu entendue en France. Alors, c'était l'occasion. Et puis, la présence de personnes racisées au plateau, ça aussi, c'est important, nécessaire. Ces corps, ces voix si rares dans nos espaces de représentation. Il y a quelque chose de militant à les faire exister ici. Rien que pour cela, il faut aller voir ce spectacle. Alors, il a des tas de défauts. Le jeu très Netflix des actrices, par exemple. Hein. Alors, tout est à fleur de peau, exagéré. Mais aussi, les changements de costume incessants pour les personnages qui ne vivent pas en prison. C'est un peu léger pour nous faire comprendre les problèmes de la captivité, je trouve. Une scénographie un peu trop didactique, avec des bâches où sont dessinés les barreaux. Ah bah, ça va, on a compris. Hein. Une manière de se dédouaner du caractère un peu médiocre des morceaux musicaux en nous faisant croire que les protagonistes débutent dans leur art. Surtout, une certaine naïveté quant à l'art de mettre en scène, de concevoir une scénographie, de diriger des acteurs, de faire affleurer le sens. Peut-être parce que Dorothée Mounia Neza est pas metteuse en scène, hein, après tout. Plutôt une musicienne et une chorégraphe, et ça se voit, ça danse bien. Et l'émotion est palpable. Oui, parce qu'il faut le dire, malgré ses défauts, cette pièce est touchante, et la fin emporte le public. Celui qui a bien besoin d'histoires d'amour inconditionnelles. Et il est temps de nous quitter. Non. Alors, je voudrais juste vous rappeler que nous avons donc vu Marius de Joël Pomera et que ça se joue encore à la MC 93. Inconditionnel au Bouffe du Nord, mais ça ne se joue plus. Et 448 Psychose et Les Forces Vives. Alors, au Théâtre Paris-Villette et Les Forces Vives à l'Odéon.
Jusqu'au 20 décembre.
Cette émission a été présentée par moi-même, Thomas, préparée par pardon, Camilla, et avec le concours de Guigui, de Alice, de Julien et d'Hélène. Merci à vous.
Merci beaucoup. Ciao, ciao.
Bisous.